Chers auditeurs, bonsoir. Olivier Tournafond, dans cette première partie d'émission, puisque la deuxième est demain soir, avec mon éminent collègue, le professeur Beausami, qui va nous parler du nouvel obscurantisme, mais également qui rendra un hommage à notre regretté collègue, le professeur De Heuvels, qui était, je le rappelle, directeur également d'émission sur Radio Courtoisie, et qui malheureusement nous a quittés. Mais ce soir, nous avons eu un thème qui est tout à fait d'actualité, avec également, je crois, par Zoom, un éminent collègue belge, et qui a enseigné dans de nombreuses universités, et qui enseigne aujourd'hui en France, que je vois d'ailleurs, c'est David Engels, qui est professeur, si je ne m'abuse, d'histoire des civilisations, n'est-ce pas? C'est bien ça? J'entends
oui,
rien, mais faut peut-être mettre le casque, voilà, c'est ça. N'est-ce pas, cher collègue, vous m'entendez?
Voilà, je vous entends très bien.
Voilà.
Vous m'entendez également?
Je vous entends très bien. Alors, je rappelle que M. Engels, c'est un brillant universitaire qui intervient dans plusieurs universités, je crois maintenant en France, d'ailleurs, du côté de Nantes, pour notre ami Philippe
oui,
de Villiers.
Oui, tout à fait, à l'ICS en Vendée.
Voilà, et vous faites un cours sur l'histoire des civilisations. Vous êtes belge, mais germanophone, ce qui est la petite communauté de 45 000 personnes, je crois. Est-ce qu'il vous donne un petit accent belge et un petit accent alémanique également, comme on dit en Suisse, qu'on reconnaît tout de suite. Mais vous parlez de très nombreuses langues et vous êtes un très bon éditorialiste, enfin, ou chroniqueur plus exactement, sur Politique Magazine. Et nous avons beaucoup de plaisir à lire vos observations, qui sont toujours extrêmement pertinentes et approfondies. Alors, il y a
merci
également...
Beaucoup.
Merci, voilà. Il y a également Bruno Gollnisch, que tout le monde connaît, qui est un collègue aussi, bien sûr, professeur de langues orientales, si je ne m'abuse.
Mais oui, j'ai été maître de conférence des facultés de droit, et je suis passé ensuite au japonais, parce que j'ai trouvé que c'était plus simple.
Effectivement.
C'est ce que j'ai expliqué à la cour d'appel récemment, mais je ne suis pas sûr d'avoir été entendu.
Oui, mais j'ai... Et nous sommes assistés par Bérénice Tournafond et Marc de Staël, qui d'ailleurs a des origines lointaines, communes avec Bruno Gollnisch. Ils sont de petites noblesses polonaises et silésiennes et prussiennes. Hein, voilà, des hobereaux.
Savoir si la Silésie était autrichienne ou prussienne est un débat qui...
Oui, c'est comme à savoir si l'Ukraine était russe ou polonaise.
Ça risquerait de devenir pugilistique entre nous. Par conséquent, il vaut mieux l'évacuer.
Voilà, c'est savoir si l'Alsace est allemande ou française aussi. C'est des vieux débats. Et puis, nous avons un public. Nous avons autorisé un public d'éminents étudiants que nous avons connus dans nos cours. Ils sont tous très doués. Et également un collègue qui assiste à notre émission, à l'invitation de Bruno Gollnisch. Et le thème que nous abordons aujourd'hui, qui est un thème qui préoccupe, je crois, tous les hommes conservateurs, c'est-à-dire énormément de gens. En réalité, je pars d'une idée qui est celle de mon collègue Jean-Louis Harwell. La gauche, c'est pas simplement une opinion, c'est une sorte de secte. Ils les appellent les gnostico-millénaristes. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que les gens de gauche adhèrent, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ennemis à gauche. Ils adhèrent, comme dans une secte, à une vision du monde très particulière, qui est une hérésie du christianisme. La gnose et le millénarisme. Alors la gnose, c'est l'idée de l'extériorité du mal, c'est l'idée que l'homme est bon par nature et que c'est la société qui le corrompt, qu'il n'est sexe n'existe pas, l'homosexualité est une bonne chose, l'enfantement est une abomination, la vie est mauvaise et il faut la détruire. Et les millénaristes, c'est une variante, une autre hérésie voisine, c'est que le royaume de Dieu c'est bien, mais c'est bien long d'attendre, on va faire tout de suite le paradis sur terre et comme ça, on va pouvoir se débarrasser tout de suite des méchants. Alors les méchants, c'est-à-dire c'est vous, Bruno Gollnisch, moi et nous tous, les méchants, c'est tous ceux qui sont les empêcheurs de tourner en rond. Parce que les gnostico-millénaristes, qui fonctionnent comme une secte, sont... À leurs yeux, ils sont le bien incarné. Ils s'appellent d'ailleurs entre eux les pneumatiques. Les pneumatiques par opposition aux êtres humains qui sont comme des animaux. Pourquoi les pneumatiques? Parce qu'ils sont tellement, leur âme est tellement légère qu'elle vole au-dessus des autres. Alors je ne sais pas si Michelin aurait pu s'inspirer de ça pour vendre ses pneus.
Pneuma, c'est l'esprit.
C'est l'esprit, oui.
Bien sûr.
Et parce que c'est léger par définition. Et donc ils sont le bien. Et comme ils sont le bien et qu'ils pensent remplacer Dieu, parce que Dieu est leur ennemi absolu, hein, il faut bien voir qu'il y a une fureur antichrétienne et contre le divin à toutes les époques, on va dire. Et on l'a vu pendant la Révolution française, on l'a vu pendant la guerre d'Espagne, on le voit encore aujourd'hui. Comme ils sont le bien, ils peuvent déterminer le bien et le mal, donc ils sont une secte. Et le vrai et le faux, etc. Bon, ils sont dans la post-vérité. Alors, par contre, les gens qui ne sont pas de gauche, bah, ils sont de droite. Voilà. Donc il y a à droite une multitude de courants différents, et aujourd'hui ces courants se réveillent enfin. Ces courants ont vu qu'ils étaient la proie de cette secte extrêmement dangereuse qu'on appellera les gnostico-millénaristes, par exemple les socialistes, les tiers-mondistes, les woke, ces gens-là. Et les gens de droite, aujourd'hui, se sont réveillés et commencent à secouer le joug. Et la grande question qui est aujourd'hui en train de se poser, quelle va être la politique de nous autres conservateurs et réalistes, parce qu'en fait, on est tous des réalistes, hein, on est tous derrière une idée de transcendance du sacré et de bon sens appliqué. On n'est pas dans un mouvement sectaire à droite, pas du tout. Je ne parle pas des gens comme les nazis qui étaient, eux, des sectaires. Mais les gens normaux ne sont pas du tout des sectaires, sont des pragmatiques. Ce n'est pas pour rien que Maurras parlait de l'empirisme organisateur. Quelle est la stratégie que nous devons adopter face à la déferlante trumpienne? Alors, est-ce que nous devons nous en inquiéter face à cette politique impériale de Trump? Et d'ailleurs, on en a des manifestations récentes, là, avec ce qui se passe en ce moment en Iran, avec ce qui s'est passé au Venezuela, avec ce qui va se passer à Cuba, au Groenland, au Canada. Est-ce que nous devons nous alarmer? Est-ce que nous devons réagir? Est-ce que nous devons critiquer? Est-ce que nous devons aller dans le même sens? Et quand Trump dit qu'avec Vance et Marco Rubio récemment, nous ne laisserons pas les peuples européens tomber sous le joug d'une nouvelle dictature. Ça suffit. Il y a eu le rideau de fer, il y a eu le communisme, il y a eu les horreurs du national-socialisme. Maintenant, ça suffit. Nous ne permettrons pas que les peuples européens deviennent soit victimes d'une nouvelle dictature woke. Et nous ne permettrons pas le déclin de l'Europe parce qu'il y va de nos propres intérêts. Alors, moi, je ne sais pas, on va voir ce que vous en pensez, David. Moi, j'avoue que ce discours viril me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Bruno. Ce discours viril me plaît, mais vous, j'ai vu dans deux chroniques très intéressantes de Politique Magazine, vous émettez quand même quelques bémols. Et c'est pour ça qu'on aimerait avoir votre opinion, et puis ensuite celle de Bruno Gollnisch, et puis je dirais un peu moi ce que je ressens. Voilà.
Oui, très, très, très volontiers. Oui, ma réponse, ce serait plutôt oui, mais, ou peut-être aussi un non, mais, je ne sais pas très bien. Bon, c'est sûr qu'il faut être réaliste, que c'est une chance inouïe d'avoir de l'autre côté de l'Atlantique un pouvoir qui, pas à tous les niveaux, mais au moins en ce qui concerne la culture identitaire, culturelle, etc., est plutôt du côté de la droite que de la gauche européenne. Donc c'est sûr qu'il faut en profiter partout où c'est possible. Maintenant, il ne faut pas trop se leurrer. D'abord, si on est là où on est actuellement, c'est en grande partie aussi à cause des États-Unis. Les États-Unis sont un pouvoir hégémonique qui tente évidemment à conserver ce statut. Je ne leur reprocherai pas, mais bon, c'est comme ça que vont les choses. Et oui, je crois évidemment que à la fois Trump et Vance et d'autres ont un intérêt à avoir des partenaires outre-Atlantique qui idéologiquement sont plus ou moins alignés. Donc ça, c'est ça. Là, je les prends certainement au mot. Maintenant, ce que je ne crois pas, c'est la possibilité vraiment que les États-Unis maintenant seraient d'accord avec un vrai partenariat à hauteur égale États-Unis et une quelque forme d'organisation européenne qui organiserait l'OTAN sous une forme de binôme. Je crois que là, le divide et impera, le fait de vouloir quand même que les différentes nations européennes soient liées aux États-Unis de manière purement bilatérale et de pouvoir, au cas où c'est nécessaire, les jouer un petit peu les uns contre les autres, fait certainement partie de l'ADN des États-Unis, comme de tous les grands empires d'ailleurs. Et donc de là, je dis, il faut faire attention, il faut prendre ce qu'on peut faire, il faut coopérer certainement tant que c'est utile, mais il ne faut pas trop se leurrer là-dessus, il faut poursuivre, je crois, quand même l'intérêt principal qui est celle de faire en sorte que nous, les nations européennes, on travaille ensemble pour être sûr de ne pas devenir les vassaux d'un autre pouvoir, qu'il soit à Washington, qu'il soit à Moscou, qu'il soit à Pékin, peu importe.
Oui, je comprends. Vous, Bruno, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un sujet très complexe. Je suis agité comme Monsieur Engel, semble-t-il, de courants contradictoires. Premièrement, je dois dire que sur le plan sociétal, comme l'on dit, j'ai été extrêmement heureux des mesures fermes, brutales, qu'a prises Trump sur le plan intérieur aux États-Unis, une brutalité qui était tout à fait nécessaire, qui répondait à la brutalité que le peuple américain avait subie pendant des décennies et qui a renversé la table en quelque sorte assez rapidement. On a découvert avec stupéfaction un homme politique qui non seulement dit ce qu'il veut faire, mais qui en plus le fait une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Et ça, c'était assez roboratif, je dois dire. Et comme j'ai applaudi, j'étais absolument ravi du discours de Vance,
Moi aussi,
que l'on
13
pourrait
février.
appeler la séance de la flagellation.
À Munich, le 13 février
Mais,
2025.
oh, je parle devant un éminent professeur d'histoire du
Non,
droit.
j'étais ici
Je fais
civiliste, moi, mais
référence à la séance de
de
la
Louis
flagellation
XV, avec
que Louis XV
infligé
avait infligée au Parlement, justifiée d'ailleurs. Mais là, c'était aux Européens, là, devant cette assemblée. ébahi et j'adhérais totalement à ce qu'a dit Vance. Alors, ça, c'est une chose. Sur le plan, en revanche, de la politique étrangère, je suis beaucoup plus sceptique parce que on peut pas reprocher, on peut pas reprocher à, je sais pas moi, un tigre ou un lion de se comporter comme un lion. Et par conséquent, je crois qu'on assiste à l'affirmation d'un impérialisme qui ne connaît guère de frontières. Et je suis quand même, contrairement à certains de mes amis, qui restent néanmoins mes amis, et contrairement aussi à l'opinion générale, assez sceptique et réticent devant les initiatives internationales de Trump, que ce soit au Venezuela ou en ce moment en Iran. En ce moment en Iran, il me semble qu'on raconte beaucoup de choses qui sont peut-être des âneries, en tout cas qui ne sont pas vérifiées, sur la possibilité qu'il y aurait à coup de bombe de faire changer le régime iranien. Je n'en suis pas du tout certain. En tout état de cause, dans l'immédiat, ça fait des dizaines, des centaines de morts. Que l'on n'évoque absolument pas, ce ne sont que des morts iraniens. Alors bon, non, mais c'est assez extraordinaire de
Oui,
voir.
de même que dans la bande de Gaza, c'était que des morts gazaouis qui
Voilà, c'est
comptaient
ça. Et
assez
qu'il y a
peu, oui.
eu, c'est vrai, il y a eu cette agression,
Oui,
sans doute
indiscutable.
accompagnée d'exactions ignobles du
Absolument, oui.
7 octobre. Bon, d'ailleurs, on se demande quelle était l'utilité, parce que
Oui, ah oui, ah bah oui.
ça aboutit
À donner des verges pour se
à
faire
la
battre, quoi.
destruction totale du Hamas, qui jusque-là régnait sur la région. Alors, l'inconvénient d'un impérialisme, il y a des impérialismes bienfaisants. Oui, l'impérialisme romain, dans une certaine mesure, a été bienfaisant, sauf pour les résistants qui étaient crucifiés.
Sauf, et
Mais
puis les Carthaginois un peu.
oui.
Carthaginois,
Et vrai,
on
pour
n'a
les
pas bien fini, on
Carthaginois,
n'a pas
oui,
bien
pour les
fini.
Carthaginoises, bon,
Ce
c'est
n'est pas
ça.
terrible.
Alors, c'est-à-dire, vous avez le choix entre l'anéantissement ou la vassalité. Et moi, je dois dire, je suis tenant, mais ça va faire l'objet de nos discussions, on ne veut pas accaparer la discussion. Moi, je suis tenant de la vieille école, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, et malgré tout d'un ordre international qui était ce que la civilisation
Oui,
européenne
avait créé, oui.
avait créé et avait produit de moins mauvais.
Alors,
Le fameux droit des gens
oui,
européens
le droit international public.
qui
Oui.
n'existe plus aujourd'hui, qui a été
Ah bah là
pulvérisé.
maintenant, alors écoutez,
Bon.
maintenant, là je reprends la phrase d'un de nos un de nos gestionnaires à la faculté, très bien, qui est dans le bureau des masters. Ah. Vous connaissez Ibrahim, qui est un homme sympathique, qui est un Égyptien. Il me dit, monsieur Tournafond, est-ce que vous pensez que je ne devrais pas revendre mes traités de droit international public ? Alors je dis oui, essayez vite de les vendre si vous trouvez encore un acheteur,
oui.
Et essayez d'acheter plutôt les mémoires de Bismarck.
La force prime le droit.
La force prime le droit. Alors Bismarck l'a bien dit.
Bismarck, excusez-moi de vous interrompre, oui. Une anecdote à propos de Bismarck, quand même, que M. Müller, qui est notre hôte ici, ne me démentira pas. Quand on lui dit, mais enfin, au moment de la guerre des duchés.
Oui, Schleswig-Holstein.
Contre le Danemark.
Le Danemark, le royaume du Danemark.
Certains opposants au Parlement prussien lui disent, mais enfin, il y a un opposant qui dit, mais enfin, de quel droit oui. Est-ce que vous envahissez le Danemark? Et Bismarck répond, nach dem kanonischen Recht, d'après le droit canon. Voilà.
Bon. Non, mais il est certain qu'on peut toujours juridiquement tout justifier. Ça, on a l'habitude, nous, privatistes. Ça fait partie d'ailleurs du principe du contradictoire. C'est du principe, c'est l'esprit justement de dialectique. Néanmoins, il y a un moment où là, ça va un peu loin. Alors, moi, je suis comme vous. On va demander à David Engel ce qu'il en pense, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir son opinion. Moi, je ne peux qu'applaudir à la mort ou à l'enlèvement de tyrans odieux et sanguinaires. Parce que Maduro était un tyran socialiste, odieux et sanguinaire qui faisait tirer la mitrailleuse sur son peuple depuis des années. Je ne peux qu'applaudir. Ça me réjouit profondément. Je ne peux qu'applaudir à la mort des ayatollahs qui ont opprimé le peuple iranien depuis la regrettée Shah d'Iran, qui était un despote éclairé, lui, et qui ont plongé le peuple iranien dans l'obscurantisme et la terreur. Bon, on ne peut pas ne pas approuver. En revanche, là où je partage tout à fait le même sentiment que Bruno Gollnisch, je m'interroge sur l'effet de déstabilisation de toute la construction juridique planétaire établie au XIXe et au XXe siècle. Parce que si on peut à ce moment-là aller assassiner qui on veut, n'importe où, n'importe comment, bah alors il suffit de Poutine pour aller dire « moi j'en ai un peu marre de ce Macron qui me tape sur les nerfs, allez hop, on va le faire liquider par des agents du FSB et puis on n'en parle plus, Starmer c'est un abruti, on le détruit, on va l'euthanasier, Merz c'est un sale revanchard allemand qui veut reprendre qui veut laver l'affront de 1945 et de la prise de Berlin, bah on va lui régler son compte. » À ce moment-là, est-ce qu'on risque pas de tomber dans le chaos généralisé et la guerre de tous contre tous. David, oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Oui, tout à fait. C'est un cas de précédence extrêmement, extrêmement dangereux. Bon, c'est évidemment pas la première fois dans l'histoire qu'il y a des assassinats politiques, loin de là. C'est une bonne vieille tradition, si on veut, qui est en train d'être continué ici. Mais bon, il est évident que cela montre encore un peu plus que le droit international qu'on a quand même, d'un certain point de vue, estimé pendant des décennies maintenant, même s'il cachait de fait aussi des réalités relativement pragmatiques, n'est plus devenu qu'un genre de chiffon qui compte peut-être pour les faibles, mais pas pour les grands, qui peuvent utiliser le droit comme ils le veulent. Donc disons que ça devient de plus en plus marqué, et il ne faut pas s'étonner si, en effet, demain, cela devienne un peu la normalité, tout comme maintenant avec le Venezuela, avec maintenant la guerre en Iran, etc. Ben, les menaces qu'on a pu faire, ou les reproches qu'on a pu faire à Poutine pour l'invasion de l'Ukraine, ben, de plus en plus...
On les relativise.
Voilà, ça devient tout à fait relatif. Donc, quelque part, il y a un problème là. Maintenant, en ce qui concerne l'Iran, je ne suis pas un expert de la région, ou plutôt, oui, je le suis, mais de l'Iran d'il y a 2300 ans, vu que j'ai travaillé beaucoup sur l'Empire des Séleucides et comment, justement, eux avaient installé le pouvoir hellénistique en Iran. Pour l'Iran actuel, je m'y connais un peu moins. Maintenant, je connais quand même assez, disons, ou j'ai assez vécu ces dernières décennies pour savoir que le reproche que d'un côté on a les États-Unis qui défendent la lumière, la liberté, les valeurs, etc., et d'un autre qu'on a toujours des tyrans odieux et sanguinaires qui méritent bien d'être enlevés, d'être assassinés, et que quelque part il n'y a là qu'un peuple qui aspire à la liberté, etc. Ben, C'est peut-être vrai dans le cas en question, je ne veux pas m'aventurer là-dessus,
on
mais
ne sait
c'est
pas, on
devenu
ne sait pas.
un narratif tellement standard que
Oui.
je peux comprendre ceux qui disent j'y crois plus, hein, parce qu'on l'a entendu pour le printemps arabe, on
Ouais.
l'a entendu pour la Syrie, on l'a entendu
Pour
pour
Kadhafi,
l'Irak, avec
Kadhafi.
Saddam Hussein, avec Gaddafi, avec Milosevic, enfin
Ouais.
bref, avec Maduro, avec Castro, avec le Cuba. Bon, bref, ce noir et blanc, un peu gnostique d'ailleurs aussi sur
Ouais.
les bords quand même, ou manichéen, finit un peu, enfin cesse un peu d'être fort crédible, d'autant plus que, soyons quand même honnêtes de ce point de vue-là, je ne crois pas que les États-Unis maintenant ont décidé de bombarder l'Iran pour sauver le peuple iranien oppressé. Ça, on aurait pu le faire l'année dernière, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou peut-être il y a 20 ans. Si ça se fait maintenant, c'est quand même dans un contexte politique extrêmement précis où l'objectif, c'est évidemment défendre Israël et les intérêts d'Israël dans cette
Ouais.
région-là. Le fait de protéger le peuple israélien, le peuple iranien d'un obscurantisme d'un certain genre. Voilà, d'autant plus que j'avoue, même si ça va peut-être bien loin, mais j'ai vu récemment encore toute une série de collègues de la presse allemande qui généralement défendent l'Occident chrétien, etc., et les valeurs chrétiennes, et qui sont très, très prônes à poster des belles photos, des croisades, et ce genre de choses-là, et qui là, d'un autre côté, quand il s'agit de l'Iran, disent il faut absolument défaire le monde d'une secte qui croit dans l'au-delà et le messianisme et
Ah
qui
oui.
n'a pas été sur Terre dans la réalité. Où je me dis, tiens, c'est une argumentation avec laquelle finalement le Vatican, ou en tout cas toute une série de régimes chrétiens, pourraient être attaqués aussi. Maintenant, ce n'est pas pour mettre en avant le fait que l'Iran vaut un régime chrétien patriotique, pas du tout. Mais juste pour dire qu'on est là dans une limite relativement dangereuse où je vois de plus en
Pas
plus que
juste.
là, on bombarde un pays avec des raisons qu'on pourrait amener très bien sur d'autres, par rapport à des valeurs desquelles on pourrait se revendiquer peut-être un jour nous-mêmes, si justement la
Oui.
droite chrétienne européenne l'emporterait. Donc je crois qu'il faut être
Prudent,
malheureusement, une fois de plus, assez machiavélien, assez pied sur terre, et ne pas trop voir là-dedans une énième opération de libération d'un peuple opprimé, mais des choses relativement concrètes qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir même avec les
Ouais,
intérêts
c'est
des
possible.
États-Unis, mais plutôt
Alors,
l'État d'Israël.
il y a eu quand même, il faut reconnaître qu'à la fin de l'année 2025, toute une série de manifestations en Iran hostiles aux ayatollahs, qui ont été réprimées dans le sang, de manière extrêmement brutale. Ça rappelle la répression de Maduro au Venezuela. Donc, l'idée de Trump, peut-être, c'est ce que un autre intervenant, un peu de la sphère, on va dire, de la sphère complotiste, comme on l'appelle, c'est-à-dire notre sphère, hein. Et c'est pas un reproche dans ma bouche, un complotiste. C'est quelqu'un qui annonce un événement avant les autres, comme disait Philippe de Villiers,
C'est
un
ça.
complotiste, probablement avant les autres. C'est Idriss Aberkane. Il dit, en fait, l'idée de Trump est loin d'être bête. Il ne veut pas envahir l'Iran comme on a envahi l'Irak en 2003, avec l'histoire des fausses armes de destruction massive. On met en application. Et on donne aux Iraniens l'occasion d'appliquer le principe évangélique « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous voulez vous débarrasser d'un régime odieux et criminel? Et ben maintenant, voilà, on a décapité ce régime, à vous de jouer. À vous de jouer, à vous de renouer avec l'état de droit et avec le commerce, parce que Trump croit beaucoup au commerce, au deal, comme il dit. Il a dit « Arrêtez de vous faire la guerre, maintenant faites des affaires et créez de la valeur ». Et ça va vous changer. Et là, on ne peut pas lui donner tort. C'est intéressant, cette idée. Est-ce
Si,
que.
je crois qu'on peut lui donner tort.
Alors, qu'est-ce que vous en
Excusez-moi.
pensez? Oui. Ben,
Excusez-moi.
je trouve que c'est intéressant comme idée, quand même.
Premièrement, d'abord, ce scénario, il a déjà été joué. Il a été joué et, paraît-il, le résultat, c'est 30 000 morts. Bon. Alors, moi, j'en reste quand même aux définitions de la guerre juste de saint Thomas d'Aquin. Dans les définitions dans lesquelles un critère essentiel, c'est est-on sûr, en déclenchant la guerre, qu'on ne crée pas un mal plus grand
Oui,
que
c'est
celui que
vrai.
l'on prétend résoudre?
Est-ce que le remède n'est pas pire que le mal?
Est-ce que le remède n'est pas pire
Oui.
que le mal? C'est évidemment, d'un point de vue chrétien, c'est une condition absolument essentielle, fondamentale.
Mais même aussi pour un médecin.
Pour un médecin aussi, bien sûr. Ah. Primum non serré. Bien exact. Sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Alors, donc ce scénario, il a déjà été joué, et pas d'après ce qu'on nous dit, d'après ce qu'on nous dit, parce que je suis assez sceptique quand même sur les commentateurs, on nous annonce qu'il y a 30 000 morts. Non, c'est pas 30 000, c'est 32 000.
Oui,
je sais pas comment on a fait les comptes exactement. Je suis, un peu. Hier, de la même façon, j'entendais Pascal Praud, dont j'apprécie très souvent les analyses sur CNews, mais enfin nous dire que ce régime était haï par, je crois, 85-90% de la population. Ouais. Ah bon ?
Bon.
Il a mesuré ça ?
Il n'en sait rien. C'est comme ça, à vue de nez.
Oui, à vue de nez.
Oui, mais je pense que Macron est haï par la même proportion.
Parce qu'il y a eu des manifestations.
Oui.
Mais, chers collègues, vous comme moi, nous avons vécu et nous avons subi les événements de 68.
Oui, oui.
Un observateur extérieur qui aurait vu la France en 68 avec 1 million de manifestants de gauche
dit, le régime est haï.
Dans les rues, le régime était haï. Il n'y avait pas le moindre soutien. Et bon, De Gaulle, contestable par ailleurs, mais c'est une autre affaire, revient, signe la fin de la récréation, et vous avez
un raz-de-marée.
Il provoque des élections, et les élections montrent que dans leur immense majorité, le peuple, sa grande majorité, le peuple français, rejette ces événements.
On aurait fait des élections au moment de la terreur, les conventionnels auraient été balayés par les urnes. C'est justement parce qu'on n'a pas fait d'élections qu'ils ont pu établir leur régime.
Quand on les a faites, les royalistes étaient majoritaires.
Exactement. Je crois qu'il y a une question, mais je vais faire une observation. Parce que je ne sais pas s'il y a des gens de gauche qui nous écoutent, ils n'aiment pas du tout nous écouter. Mais s'il y en a qui nous écoutent, eh bien, on va leur dire que nous leur donnons là un modèle, puisque nous ne sommes pas d'accord forcément entre nous, vous voyez, vous Bruno, David, moi, nous avons des préférences, nous ne sommes pas forcément d'accord, nous écoutons l'argument de l'autre, nous avançons les nôtres, nous pesons le pour et le contre, comme dans un débat juridique, mais nous n'invectivons pas celui qui ne partage pas nos idées.
Ah non.
Voyez, ça c'est typique
d'un
débat de droite.
Courtoisie.
Et oui, alors que dans un débat de gauche, immédiatement les insultes auraient fusé. Sous prétexte qu'on était dans le camp du bien ou pas dans le camp du bien.
C'est vrai.
Là, je donne notre table ronde en exemple aux gens de gauche qui nous écoutent, s'il y en a, mais je ne sais même pas s'il y en a.
Vous avez été indulgent pour mon comportement provocateur. Alors, je précise quand même une chose, je ne suis pas un adepte de la révolution islamique. Je ne suis pas converti, j'essaie d'être catholique romain, ce qui est très difficile, mais je ne me suis pas converti au chiisme du haut des humains.
Mais moi j'avoue que je préférais voir le retour du fils du chat plutôt que ces énergumènes à barbe et à turban.
Moi aussi. Nous nous rejoignons là-dessus, bien sûr. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que les bombardements massifs vont suffire
à obtenir ce résultat. C'est tout le challenge. Alors, David,
n'oublions pas la situation avec le printemps arabe. Évidemment, l'Iran n'est pas un pays arabe, n'est pas absolument comparable avec l'Égypte, la Tunisie, la Libye, etc. Mais je veux dire, cette idée très américaine, au fait, et que nous, les Européens, malheureusement, on a un peu repris, mais cette idée qu'il suffirait automatiquement de bombarder, d'assassiner, enfin de faire disparaître un régime que nous, on n'apprécie pas parce qu'on le considère comme ci ou cela, pour que le peuple spontanément s'organise pour subitement mettre en place un régime libéral, démocratique à l'européenne, il y a plus grand monde qui croit en cela. Évidemment, ce qui se passe derrière, c'est l'espoir, évidemment, en créer le chaos. Et voilà, c'est plutôt les services secrets ou les personnes qui ont un peu d'influence qui, alors, peuvent profiter de cet événement-là pour mettre en place un régime qui est déjà préparé ailleurs. C'est cette idée que spontanément, un peuple de, allez, comme l'Iran, de presque une centaine de millions d'habitants dans un pays extrêmement divers, etc., va se réorganiser à l'européenne. Ouais. Ça me semble assez...
Et c'est sûr que c'est une erreur comme celle qui a été commise en Irak en 2003. Et d'ailleurs, pour ma part, je ne suis pas du tout favorable à l'établissement de force d'un régime démocratique à l'européenne, parce que déjà, quand on voit à quel point ça marche mal chez nous, à quel point les gens sont déliquescents et décadents, que franchement, la démocratie, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas pertinent. En revanche, l'idée d'un régime mixte, d'un régime comme celui qu'Aristote prônait, un régime avec des contre-pouvoirs, un régime traditionnel, on va dire, un régime conservateur et traditionnel, comme le fut l'ancien régime en France, longtemps, ça, oui, ça serait bien, parce que je pense qu'en Iran, on aurait pu faire ça. Bon, mais alors il y a une question qu'il faut absolument qu'on pose, excusez-moi, et j'en laisse Marc la poser.
Nous avons 5 remarques, questions d'auditeurs, donc pas qu'une seule, Olivier.
Oui, ah bah merci.
Très bien. Alors, tout d'abord, le président Trump a tout à fait raison de sévir, car le danger pour le monde est l'islam. Ne pas oublier l'origine européenne des Américains.
Alors, il faut quand même réagir à cette
alors, attendez,
question.
Parce que la question suivante d'un autre auditeur, elle est un peu dans la même logique.
Ah bon, oui.
Bonsoir à vous tous. La politique de Trump se rapproche-t-elle du courant millénariste en dépit de sa lutte salutaire contre le wokisme et les dérives sociétales? Mais quand on entend les discours de Hexet, quand on voit les tatouages de croix énormes du nom de Jésus écrit en gothique, quand les officiers supérieurs disent que la destruction de l'Iran fera s'accomplir le retour du Christ, peut-on s'inquiéter de la santé mentale des intéressés? Trump semble aussi suivre les avis d'un directeur de conscience évangéliste qui tient le discours des peuples élus, les autres étant des animaux. Rien de cela n'est chrétien, rien de cela n'est rassurant. Quelle est la part de la comédie et celle de la folie? Un auditeur, Jean Denis.
Alors, est-ce que Bruno ou David...
Sur la première question, c'est parce que sur la deuxième est plus une observation qu'une question. Donc je laisse à l'auditeur la responsabilité de son propos, qui est intéressant. Sur la première question, à savoir... Et il faut. Trump a raison de sévir parce que le danger, c'est l'islam.
Et puis la bombe atomique,
alors,
le risque de guerre.
Je signale qu'il y a, je ne sais pas, à peu près 1 milliard de musulmans de par le monde. Alors ça va faire un programme.
D'extermination assez vaste.
Un programme très important. Contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui, mais les commentateurs ne savent pas souvent de ce dont ils parlent, et les auditeurs, malheureusement non plus. L'Iran n'est pas à l'origine du terrorisme islamique que nous avons connu ces dernières années.
Alors que pourtant,
il est à l'origine du terrorisme islamique, peut-être, oui, par divers proxys, comme l'on dit, il y a 40 ans. Oui, d'accord, oui, il y a 40 ans, l'attentat au grand magasin, peut-être, ou peut-être le Dakar. Le Dakar, on l'attribuait au régime syrien. Mm-hmm. Alors, le régime syrien était, dans la mesure où les Syriens sont alaouites, était vu avec faveur par l'Iran, etc. Bon, enfin, tout ça, ça remonte à il y a 40 ans.
Oui, c'est ça.
Moi, je me souviens, j'ai eu des contacts comme député européen, avec des diplomates iraniens qui m'ont demandé à me voir. Moi, je parle avec tout le monde, y compris des adversaires ou des ennemis. Bon, et je leur ai dit ma réprobation de tout ce qui s'était passé, notamment de la prise d'otage, la fameuse prise d'otage lors de la révolution islamique, etc. 76. Je leur ai dit que ceci, jetait l'opprobre sur leur régime, etc. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu, mais Monsieur Gollnisch, oui, et les horreurs de la Révolution française.
Ah bah,
et pourtant, ça ne vous empêche pas d'être en République aujourd'hui.
Oui, c'est sûr. Oui.
Bon, je dois dire, je n'ai rien trouvé. Rien trouvé à répliquer. Bon, En plus, l'islam des Iraniens, encore une fois, je ne défends pas le régime.
Non.
Je ne voudrais pas être suspecté.
D'être pro-ayatollah.
Mais l'islam des Iraniens, c'est l'islam chiite.
Oui,
c'est un islam tout à fait minoritaire. C'est considéré comme une hérésie par les sunnites. Et Al-Qaïda. Le califat islamique, enfin toutes les formes de.
C'était des
sunnites. Oui. Ils se détestent copieusement. Et je pense d'ailleurs que. Je peux me tromper, mais je pense que l'intention affichée de détruire Israël par le régime iranien, qui n'a jamais connu le commencement du début de la moindre exécution, était dû surtout à s'assurer une espèce de magistère moral dans le monde musulman et rien d'autre, en réalité. Encore une fois, je ne dis pas ça pour les défendre. En revanche, il y a une chose qui existe dans l'islam chiite, c'est le sens du martyr. Parce que les chiites, c'est Shia Ali, c'est le schisme, l'hérésie d'Ali. Ali, qui était gendre du prophète, c'est-à-dire le fait préférer la lignée par le sang, en quelque sorte, enfin, encore que ce ne fût que son gendre, enfin, de Mahomet, à sa lignée spirituelle, telle qu'exprimée par l'Oumma, par la communauté. Bon, ça a donné lieu à un certain nombre de califes qui se sont succédés jusqu'au. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas un théologien musulman, jusqu'au 12e, qui a disparu dans une bataille que se sont livrés les Perses, les Iraniens et les Arabes. Bon. Et le Messie pour les Iraniens, c'est l'imam caché, car il n'a jamais retrouvé son corps, et il pense qu'il n'est pas mort, et il pense qu'il reviendra à la fin des temps. Il y a une espèce de messianisme, et il y a un mythe, une mystique du martyr dans cette civilisation qui pourrait se retourner contre nous, je pense, mais qui pour le moment n'avait pas fait de dégâts chez nous.
Alors oui,
avec évidemment la dynastie des Fatimides qui a sauté justement sur ce courant ismaélite pour
tout à fait
proclamer le retour de l'imam caché, avec notamment le calife al-Mahdi quand il a pris le pouvoir en Afrique. Mais peut-être juste
connaissez tout cela mieux que moi, bien sûr.
Je donne quelques cours sur les Fatimides, donc voilà, j'ai encore assez bien le chien. Mais peut-être juste comme parenthèse sur justement ce que l'auditeur a dit sur l'islam comme ennemi principal, il me semble qu'il y a deux choses qui se mélange. Alors je dirais qu'en tout ce qui concerne surtout nos propres intérêts en tant qu'Européens, qui devraient quand même être primordiaux pour nous dans cette discussion-là, l'islam en tant que tel, là pour le moment, c'est une trentaine de pays absolument morcelés, sans grande influence sur la scène politique, qui ne constitue ni une menace véritablement économique, d'autant plus qu'on se défait de plus en plus de l'emprise, de la dépendance du pétrole, etc., ni véritablement une menace politique quelconque. Par contre, s'il s'agit de géopolitique, la menace évidemment primordiale, ou en tout cas la compétition primordiale, c'est évidemment avec la Chine, qui est l'ennemi principal de Donald Trump, qui a répété à souhait que c'était ça, évidemment, l'ennemi numéro un. Et je crois que Trump lui-même, qui, je crois, ne veut pas vraiment cette guerre en Iran, doit la considérer comme un problème, si on veut, par rapport à son objectif principal. Je crois que ce qui se mélange probablement aussi dans ce que l'auditeur a dit, c'est que cette menace perçue de l'islam, elle se réfère surtout au fait de l'immigration de masse. Qu'on est maintenant dans des sociétés absolument morcelées.
Ce n'est
certainement pas en menant une guerre contre l'Iran qu'on va arriver au bout du problème d'être dans des sociétés européennes avec des millions et des millions de désormais citoyens musulmans qui sont dans un conflit d'intérêts de plus en plus marqué et qui constitue une très grande hypothèque qu'il va falloir résoudre. J'ai l'impression qu'on a deux...
Oui, c'est vrai que vous avez raison, il ne faut pas confondre les deux. Mais alors, ce qui nous surprend un peu, je pense que vous avez été comme moi surpris, c'est cette tendance de Trump à ouvrir des fronts successifs de manière très impulsive, puisqu'il y a eu l'annexion du Groenland, qui d'ailleurs n'a pour le moment pas abouti. Ensuite, il y a eu l'annexion possible d'une partie du Canada, notamment de l'Alberta, où là, paraît-il, l'Alberta était prêt à basculer et à devenir un État américain, mais ça n'a pas encore abouti. Après, il y a eu le Venezuela, avec l'enlèvement de Maduro, et on espérait d'ailleurs même à peu près même scénario qu'en Iran. On décapite le chef et puis on espère que les Vénézuéliens vont prendre leur lait. Il y avait Cuba aussi, qui était... parce que ça branlait dans le manche, comme on disait autrefois à Cuba. Et puis alors maintenant, il y a l'Iran. Alors ça fait un peu beaucoup tout ça.
Oui.
Ça fait, on a l'impression... Oui, il y a d'autres questions, mais c'est quand même important ce qu'on dit. On a l'impression d'une sorte de boulimie activiste.
Oui, et toujours avec les mêmes méthodes quand même que je trouve très contestables. C'est-à-dire qu'on affame, les pays comme on a affamé l'Irak, on affame Cuba aujourd'hui. J'ai aucune sympathie pour le régime cubain, mais enfin, on déclenche un blocus.
Ouais, ouais.
Bon.
Alors, on n'a pas encore affamé le Groenland.
Non.
ni l'Alberta.
Non, mais l'Iran, on a détruit complètement l'économie iranienne. Ouais, je vous rappelle quand même que. Pour le crime, entre guillemets,
oui,
d'avoir continué à faire des affaires,
à commercer
avec l'Iran, la BNP, oui, banque française, oui, a été taxée par les États-Unis d'une amende faramineuse, je crois, de 9 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça fait 9 milliards d'euros. Tout ça parce que, sous le prétexte dérisoire, que la somme était libellée en dollars. C'était tout à fait en dehors du champ des États-Unis.
Oui, oui.
C'était une filiale de la BNP Banque française, une filiale suisse, qui continuait le négoce avec l'Iran. Bon. Ceci sans soulever la moindre protestation d'une autorité publique française. J'en ai fait le reproche à mon très modeste niveau, personnellement, dans l'hémicycle du Parlement européen, à M. Hollande.
Et puis alors, ce qui est très embêtant, c'est que ça crée effectivement un précédent très, très dangereux, parce que Trump... on peut espérer que Vance prendra la suite de Trump, parce que Vance est un homme de grande valeur, je trouve. Et cette politique américaine conservatrice pourrait se poursuivre, cette politique impériale pourrait se poursuivre. Mais il y a aussi le danger que cette politique s'arrête aux prochaines élections, qu'il y ait une alternance démocratique, que les démocrates reviennent au pouvoir et utilisent les mêmes méthodes, mais contre nous cette fois-ci.
C'est certain.
C'est un danger. C'est un danger aussi.
C'est ce qui existait avant Trump, les réseaux sociaux,
exactement,
les GAFAM.
Oui.
Puisque Google, Facebook, tout ça, ils modifiaient l'algorithme pour qu'il y ait une moins bonne visibilité de la droite.
Hein.
C'est comme ça qu'ils ont prospéré pendant une dizaine d'années.
Donc,
ils avaient une rupture technologique là-dessus.
Il y a un danger là, de ce point de vue-là aussi.
Alors, pour reprendre l'exemple de la BNP, il y avait aussi Peugeot. Parce que Peugeot s'est écroulé à partir du moment où on leur a dit en Iran, vous
bien
ne produisez
sûr
plus en Iran.
Bien
c'est
sûr,
à partir de ce moment-là que Peugeot a été démantelé
et
a disparu dans Stellantis.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a d'autres questions, excusez-moi d'interrompre ce débat.
Alors, nous avons Denis qui nous dit « Merci pour cette émission très intéressante. » Et le maréchal Pétain qui fut applaudi, puis en 1945, fut le collaborateur, un peuple suit le vainqueur et j'espère que Donald Trump traversera Téhéran sur un cheval blanc lors de l'investiture du retour du roi. Bien courtoisement, Denis.
Merci cher Denis,
un souhait que Denis peut tout à fait nourrir.
Effectivement. Il y avait Denis le tyran, mais il était moins commode que l'auditeur.
Tyran
de Syracuse, oui.
On a un autre auditeur qui nous dit « Bonsoir, peut-être que l'avenir de l'Iran est dans sa partition entre Kurdes et autres. Bien courtoisement, qu'en pensez-vous ?»
Il y a beaucoup de minorités en Iran, oui, mais peut-être M. Engels...
Madame voudrait passer un bobino. Ah, alors on a la publicité, ça
c'est
passe
très important. C'est très important.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On va vous en prêter. On va lui prêter un casque pour qu'il ait... Voilà. Alors, les Kurdes, oui, alors partition de l'Iran, bon, bah, ça commence à bien faire. On a assez de problèmes comme ça. Mieux vaut laisser les choses en l'état. Mais c'est certain que c'est très curieux. Alors, un adversaire de Trump en Suisse m'a dit... il est très curieux, ce Trump, on dirait un peu un Hitler qui jouerait au poker. Et il y a du vrai là-dedans, parce que il a des méthodes extrêmement brutales qui pourraient rappeler à certains égards celles d'Adolf Hitler, notamment avec les Sudètes, avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. L'Autriche aussi, quand il a reçu le chancelier von Schuschnigg, qui l'a, lui a imposé une pression infernale pour obtenir l'Anschluss. Mais Trump serait un Hitler qui jouerait au poker. Et Adolf Hitler ne jouait certainement pas au poker. Ça, c'est sûr que non. Peut-être qu'il jouait aux échecs, je sais pas. Ben, il jouait pas au poker. C'est sûr que non.
En tout cas, il a gagné. Il a gagné ses paris jusqu'au jour où il a pensé qu'en attaquant la Pologne, la France et l'Angleterre ne bougeraient pas.
Oui, c'était vrai. C'est, voilà. Juste, oui.
C'est ça qui a été le début de la fin. C'est pour ça que moi, je me méfie beaucoup des guerres préventives. Les guerres préventives, parce que les guerres préventives, c'est souvent une catastrophe. Et,
on l'a vu en Irak.
On l'a vu en Irak. Ouais. Mais,
on l'a vu avec les printemps arabes.
On l'a vu avec les printemps arabes, mais on l'a vu. Mais je vais vous dire, la guerre de 14 était une guerre préventive. Oui. J'ai hérité de mon arrière-grand-père, qui était ministre des Affaires étrangères, la correspondance de juillet 14.
Ouais.
Bon, la guerre ayant été déclarée début août. Et je pense à la dernière lettre de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II,
oui.
À l'empereur de Russie, Nicolas II,
oui.
Et dans laquelle il lui explique que ce conflit entre l'Autriche et la Serbie accusée,
oui.
À tort ou à raison, d'avoir
assassiné l'archiduc,
d'avoir fomenté l'assassinat de l'archiduc héritier,
oui.
C'est une guerre préventive.
Oui.
C'est une guerre préventive, et dit Guillaume II... Je t'assure, Niki, elle est nécessaire au maintien de la stabilité de nos trônes et du principe dynastique.
Ouais,
voilà. Ça devrait être gravé en lettres de marbre. Elle est nécessaire au maintien de la stabilité de nos trônes et du principe dynastique. Et quatre ans plus tard,
les deux trônes
on 12 millions de morts et 40 millions de blessés plus tard. Tous les trônes ont sauté.
18 trônes sont tombés.
Tous.
18 d'ailleurs, même d'un point de vue, même d'un point de vue géopolitique, de ce qui vient de se passer, là, je viens de voir l'un des derniers tweets, je crois, de Rubio, qui dit clairement et ouvertement que, voilà, il s'agit d'une guerre préventive où les États-Unis ont su que la guerre allait venir, et pour pouvoir défendre Israël et les intérêts américains, on va attaquer l'Iran pour pouvoir se mettre dans une position idéale. Au fond, c'est précisément l'argumentation du Reich allemand en 1914,
oui.
Qui se dit « la guerre va venir, nous on va prendre la Belgique parce que, de manière préventive, parce qu'au moins comme ça, on peut la gagner, même si on se met dans une position moralement...
discutable.
C'est
ce que
d'un certain point de vue, c'est un peu absurde. D'un côté, en 18, voilà, même les États-Unis participent à Versailles au fait de condamner l'Allemagne pour son attaque initiale, alors que maintenant, c'est exactement la même argumentation qui est mise en avant.
Oui, c'est tout à fait exact.
C'est ce que dit très clairement... D'ailleurs, dans cette lettre à laquelle je faisais référence, Guillaume II à Nicolas II, il lui dit « arrête ta mobilisation ».
Ah oui.
« Car si ta mobilisation continue, mon gouvernement estime qu'on ne peut pas courir le risque d'avoir à se battre sur deux fronts.
Oui, c'est exact.
Et donc, ce sera la guerre.
Ça va être la guerre, oui. C'est ça.
Parce
que c'est
vrai que la guerre a été déclenchée parce que l'Allemagne avait peur d'avoir à se battre sur deux fronts.
Oui, parce que la mobilisation russe est intervenue dès la mi-juillet 1914.
C'est ça.
Le haut état-major allemand a dit, maintenant, on n'a plus le choix, on est obligé d'agir, parce que... Et puis, de toute façon, la France risque de devenir trop forte. Alors, il y a l'histoire de la bombe atomique aussi. Est-ce que vraiment l'Iran a l'intention de développer une bombe atomique à des fins militaires, ou est-ce que c'est, l'énergie atomique à des fins civiles? Bon, les médias français, bien sûr, nous disent que oui, parce que là, vous remarquerez que tous les médias sont va-t-en-guerre. Hein.
Oui.
Même Macron.
C'est extraordinaire.
Même Macron est va-t-en-guerre. Ils sont tous va-t-en-guerre. D'ailleurs, ils ont trouvé enfin la guerre qu'ils rêvaient. Macron voulait faire la guerre à la Russie, alors mieux maintenant, il va faire la guerre à l'Iran, et il a dit qu'il allait employer tous les moyens nécessaires pour assurer, bien sûr, le succès de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité homme-femme, bien sûr. Alors là, il joue sur le velours, il est ravi, Macron, c'est merveilleux pour lui, cette histoire de guerre. Alors cela dit, maintenant, il va devoir s'allier à des gens qu'il méprise. Mais ça, il a l'habitude. Il a l'habitude.
Oui. Mais comment sortir de tout cela?
Alors, David Engels, cette histoire de bombe atomique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment l'Iran veut, comme la Corée du Nord, développer la bombe atomique, ce qui va les rendre invulnérables ou très dangereux? Ou est-ce que c'est encore un montage occidental?
Voilà. Je ne suis pas sûr. Je connais trop peu la situation pour pouvoir vraiment dire maintenant, scientifiquement, vous voyez, ils étaient à ça près ou autre chose. Je sais juste que finalement, obtenir une bombe nucléaire n'est pas tellement compliqué, apparemment, techniquement, pour un pays avancé. L'Iran est quand même un pays avec beaucoup de chercheurs chevronnés, etc. Donc, quelque part, s'il voulait l'avoir, est-ce qu'il n'aurait pas déjà pu l'avoir? Je doute, en tout cas, du narratif actuel. Maintenant, une chose est sûre, c'est que Kim Jong-un, maintenant, doit se féliciter en se disant
«
T'as tout fait correctement, mon gars, c'est ce qu'il fallait absolument, nous, on nous laisse en paix, on a la bombe atomique. » Et le problème, maintenant, c'est évidemment que tous les potentiels dictateurs futurs ou autre chose vont se dire « Bon, maintenant, il faut vraiment y aller, il faut avoir une bombe atomique. S'ils attaquent même l'Iran, alors que c'est une centaine de millions d'habitants, il faut qu'on se la procure le plus rapidement pour être en sécurité. » Donc là aussi, c'est un symbole évidemment très, très négatif. Peut-être juste une petite remarque sur ce qu'on disait tantôt, sur cette impression, et ça a à faire avec ça évidemment, que Trump semble aller un peu dans tous les sens.
Ouais.
C'est vrai, je crois qu'il est assez irascible et peut-être pas absolument systématique, et il est probablement aussi poussé par à la fois ses propres instincts, mais aussi les réactions sur le moment, de la surcompensation, sur aussi tout simplement les gens qu'il conseille en dernier. Mais on voit bien qu'il y a quand même deux stratégies qui sont en confrontation. D'un côté, on a cette volonté d'affermir le pouvoir américain sur son hémisphère, et s'y retirer. Mmh. Hein, donc le Venezuela, le Groenland, le Canada, tout ça semble relativement cohérent. Donc,
ouais.
Dans cette idée, ok, on est dans la multipolarité, donc nous, maintenant, on cimente le pouvoir sur la nôtre et on laisse la paix aux autres dans leur domaine. Et en même temps, on a quelque chose qui va tout à fait à l'encontre, enfin qui va tout à fait au contraire de cela,
ouais.
C'est cette idée, non, c'est la Chine l'ennemi principal. Donc on va, notamment aussi pour cette raison-là, probablement avoir une présence américaine en Iran pour couper l'accès de l'Eurasie justement à la mer Rouge. On va essayer de faire la paix aussi rapidement que possible avec la Russie pour construire un front commun, si on veut, contre la Chine. Donc on dirait qu'en fait, il y a deux étapes. Une première où il faut raffermir le pouvoir américain quand même chancelant et transformer un régime bilatéral en régime impérial, et en même temps une volonté de domination hégémonique, et les deux qui devraient être deux étapes chronologiques différentes. On a l'impression que en fait Trump, selon les occasions, les confond, et c'est assez dangereux en fait de voir ces deux objectifs qui ne vont pas vraiment,
qui sont contradictoires,
se recouvrir dans le temps. Ça me rappelle un peu cette vu qu'on avait déjà mis en avant les parallèles avec la Deuxième Guerre mondiale, mais ça me rappelle un peu cette contradiction qu'il y a d'un côté entre un Reich allemand qui, après la défaite de la France, veut quelque part affermir son bloc continental, et qui néanmoins va alors rentrer en guerre contre la Russie et en plus la déclarer aux États-Unis.
Oui, ça c'est le comble.
On a l'impression aussi, voilà, au lieu de...
D'un cafouillage...
On se lance dans une conquête mondiale, et ça ne pouvait que foirer.
Oui, c'est la fuite en avant. C'est une sorte de fuite en avant, et c'est un peu cette impression... une boulimie de conquête. Napoléon aussi s'est lancé dans une boulimie de conquête. et Adolf Hitler aussi, avec son attaque de la Russie. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand on entend cette bande audio très intéressante enregistrée par les services secrets finlandais entre le maréchal Mannerheim et Adolf Hitler, oui. Vous avez certainement tous entendu cette bande qui a été rendue publique il y a 4-5 ans, qu'on peut entendre sur Internet désormais, et où on entend d'ailleurs pour la première fois Hitler qui parle d'une voix normale au lieu de vociférer. Et il parle d'ailleurs, c'est un bon pédagogue, je pense qu'il aurait pu faire des cours à la fac, hein, comme chargé de TD, il aurait été apprécié des étudiants parce qu'il est très convaincant et il est modéré dans son expression. Hein. Je pense qu'il était pédagogue ce type-là. Et puis en plus, il avait un pouvoir de fascination extraordinaire. Et alors il dit, mais j'étais obligé, je devais lancer cette attaque préventive. Parce que, vous rendez compte, cher ami, dit-il à Mannerheim, ils avaient construit je ne sais pas combien de dizaines de milliers de chars, ils avaient construit je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'avions, ils allaient nous tomber dessus à bras raccourcis, j'ai été prévenu par mes services secrets, je n'avais plus le temps de faire, je ne pouvais plus faire autre chose. C'est la même idée de la guerre préventive. Alors que je ne suis pas du tout certain que la Russie allait attaquer l'Allemagne. Enfin, c'est controversé, je crois, aujourd'hui. Il y a des gens qui débattent des deux.
C'est controversé. Oui.
Mais bon, en tout cas, c'était la même idée. Donc, à chaque fois, la fuite en avant. Et puis après, ça se voit, qui trop embrasse mal étreint, comme on dit toujours en français. C'est bien ça qui arrive. Alors, il y a des questions de nouveau d'auditeurs auxquelles nous devons répondre.
Il est signalé sur CNews que Donald Trump menace de suspendre toute relation commerciale avec l'Espagne qui refuse d'ouvrir une base militaire américaine sur son sol. On nous dit aussi que Donald Trump attaque l'Iran pour couper l'approvisionnement en pétrole de la Chine car l'Iran serait indépendant financièrement. Bon, ça c'est pour un premier auditeur.
Si, d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qu'il faut ajouter à ça, c'est que justement, il y a pas si longtemps, Merz semble avoir, dans une discussion bilatérale, justement, qui se fait pour le moment avec Trump, avoir donné raison à Trump en ce qui concerne ses menaces économiques contre l'Espagne. Et donc là, on revient évidemment à ce qu'on avait dit au début de notre discussion, c'est que ce risque qu'il y a, si on se rend vraiment en tant que droite européenne dépendante de Donald Trump, que ce jeu-là
ne nous entraîne
les uns contre les autres pour que tout le monde essaye de sauter un tout petit peu plus haut pour avoir le petit cookies, la petite croquette qu'on donne aux chiens, risque de devenir une réalité. Si on voit déjà que maintenant...
C'est la vassalisation, c'est la vassalisation de nos nations. Ouais. Je dois dire, j'ai fait mon service comme officier de marine, bon. J'étais très jeune, j'avais 21 ans. Mon premier embarquement, comme j'étais censé baragouiner quelques mots de portugais, on m'envoie aux Açores, sur le navire amiral du groupe d'essai des missiles, le Henri Poincaré. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que, pourquoi ce grand navire, plein de radars et d'appareils de transmission, allait-il aux Açores? Pour assurer la retransmission de la conférence au sommet entre le président américain Nixon et le président français Pompidou. Ouais. Car c'était l'époque bénie qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, où quand les deux présidents américains et français se rencontraient, chacun faisait la moitié du voyage.
Ah oui.
Voilà. Ce coup-ci, c'était aux Açores, à Punta Delgada ou quelque chose comme ça, c'était aux Açores. Ouais. La fois d'avant, ça avait été aux Antilles. La fois d'après, ça a été en Islande, etc. Aujourd'hui... c'est très significatif.
On va à Washington.
On va à Washington prêter l'hommage vassalique. Ouais, et ça. Si on est reçu à Mar-a-Lago ou à Camp David, alors c'est l'extase. C'est quand même très significatif. Et je pense que c'est le problème des empires. L'empire, vous n'avez le choix que de vous
soumettre ou démettre.
Ou de disparaître.
Mais on pourrait peut-être suggérer à Trump de venir en Espagne, justement, pour discuter avec un ayatollah, parce que ça serait à mi-chemin. Alors, d'autres questions
Là, on a une remarque un peu, comme je les aime, un peu complotiste. Certains parlent d'une opération Epstein. À propos de cette furieuse sollicitude pour le peuple iranien généreusement bombardé. En fait, on peut noter que dans la semaine qui a précédé, nous avons assisté aux ennuis du prince Andrew, à l'audition de Clinton, de Bill Gates, la mise en cause de relations proches de feu Epstein, qui a eu la bonne idée de se terre définitivement, mais qui a laissé de bien jolies photos où l'on voit Trump gentiment caresser les cuisses d'une jeune fille à côté d'Epstein. Miracle, on ne parle plus que des méchants enturbanés agressifs qui osent attaquer les gentils ricains.
Oui, ce qui est pas... Je crois que l'auditeur peut parfaitement soutenir cette thèse. Enfin, étant, si c'est vraiment le cas, je pense que l'Iran, ça ne suffira pas. Si scandale il y a, je pense que l'Iran ne suffira pas à étouffer le scandale. Non, parce qu'il ressortira à la première occasion.
De toute façon, il y a combien ? 1 300 000 pages. Alors, il y a encore beaucoup de choses à exploiter là-dedans. Oui. Et puis, bon, si Trump caressait les cuisses d'une jeune femme, ça reste dans l'ordre naturel des choses. On va dire.
Ça prouve qu'il est hétérosexuel.
Ça veut dire qu'il n'était pas pédophile.
C'est déjà quelque chose. Il mérite d'être noté.
Mais de toute façon, notre époque est devenue extrêmement intolérante sur le plan sexuel. Remarquez, contrairement aux années 70, comme on dit en Suisse. Dans les années 70, ça passait très bien d'avoir des relations un peu bizarres. Maintenant, oh là là, vous avez remarqué à quel point c'est codifié. Tout ça. C'est très curieux. David Engels...
C'est pour les jeunes gens d'aujourd'hui. Avant d'embrasser une jeune fille, il faudra qu'ils passent chez un notaire.
Oui, qu'ils assurent une signature authentique. Peut-être que la signature électronique suffira, il faut voir. Avec un code confidentiel.
Un code de confirmation.
Un code par SMS sur son téléphone. David Engels, est-ce que vous pensez que c'est un dérivatif pour l'affaire Epstein et qu'ils ont trouvé ça pour noyer le poisson ? Bon, je sais pas.
Tout d'abord, en Belgique, on dit 70 aussi, d'ailleurs.
Oui. Est-ce qu'on dit 80 ? On dit 80 et 90 ?
On dit 80, nous, en Suisse, on dit 70, 80, 90,
parce qu'ils comprennent pas sans ça. Ils comprennent, je suis obligé de traduire à chaque fois.
C'est logique.
Dans l'autre sens aussi, on devrait dire octante.
Ça serait encore mieux plus chic.
Moi, quand j'arrive en France, quand je dois appeler, par exemple, mon numéro de téléphone, qui contient en effet à la fois des 70 et des 90, très souvent, mon locuteur français me regarde avec des grands yeux et je dois traduire en 90.
C'est compliqué d'ailleurs. C'est compliqué de dire 80, 4 fois 20 et plus 10. C'est très sophistiqué.
Et mon code postal, c'est 78 770.
Oh là là. Voilà.
À Thoiry.
Alors, vous êtes à Thoiry? Au milieu des fauves, alors.
Les nuits d'été, j'entends les aboiements des chacals, les rugissements des hyènes, les feulements des lions. Donc ça ne me change pas beaucoup de la politique.
De la reine politique. Voilà.
Du cher comte de la Panouse, que je salue d'ailleurs au passage, qui est un véritable ami.
Eh bien écoutez, c'est bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions,
oui.
Marc ?
Petite question. Est-ce que le Vietnam du Nord a respecté le traité de paix avec les Américains en 1974 ? Non. Et le Vietnam du Nord a annexé le Vietnam du Sud. Ouais. Personne n'a bronché, bien courtoisement.
Oui, ce qui est vrai.
Absolument.
Ça, c'est absolument. Mais de toute façon... ces histoires de traités, c'est comme le traité de Versailles, c'est comme le mémorandum de Budapest. Moi, je dis que nos amis publicistes, qui font du droit international public, devraient s'inspirer de la pratique du droit des affaires avec les clauses rebus sixtantibus, c'est-à-dire les clauses de sauvegarde.
Très beau sujet.
On ne devrait pas signer des traités ad vitam aeternam parce que les conditions changent et parfois les populations n'ont plus envie d'être soumises au même joug. Chaque fois, vous remarquez qu'il y a des tensions terrible sur la planète, ça s'est vu avec l'Alsace et la Lorraine, mais également avec l'Ukraine. C'est un État qui s'est vu privé d'une province à la suite de circonstances plus ou moins dramatiques, et qui ensuite ne tolère pas que cette province lui revienne pas. Et les Russes considèrent que l'Ukraine leur appartient depuis toujours, et que ça fait partie de l'Empire russe, et que c'est à eux, un voisin de nous, comme nous, on considérait que l'Alsace et la Lorraine faisaient partie de
l'Ukraine. À ceci près, c'est un vaste débat, c'est un autre débat, ça n'aura pas été arraché par la force.
On va dire qu'ils ont été soumis à une violence morale. Oh ben mais pas une violence physique.
Ils ont reconnu les frontières de l'Ukraine.
Oui,
par,
oui mais ils étaient dans un état de
trois traités successifs.
Oui, mais dans un état de faiblesse indescriptible,
ah bon,
qui était lié à la chute de l'URSS et à une période de faiblesse. On sait, ils disent qu'ils ont été victimes d'une sorte d'abus, d'abus de faiblesse.
Si l'Ukraine avait conservé son arsenal nucléaire qu'elle a donné, cédé en échange,
je
pense que ce conflit n'aurait pas eu lieu.
Oui,
et la Corée du Nord, où j'ai été délégué par le par le Parlement européen, avec deux autres députés, au moment où ça chauffait entre Trump et Kim Jong-un, eh bien, doit se féliciter, en effet, d'avoir la bombe atomique, parce que je pense que Kim Jong-un doit méditer sur ce qui est arrivé à Kadhafi, sur ce qui est arrivé à Saddam Hussein, sur ce qui est arrivé
à Maduro,
sur ce qui est arrivé à Khamenei, et se dire que si M. Trump l'a trouvé si aimable et si fréquentable lors de l'entretien qu'il a eu avec lui à Singapour, il le doit peut-être précisément à la possession de cette bombe atomique. Ce qui permet juste, au passage, de dire une chose, parce que on a discuté tout à l'heure du point de savoir si l'Iran avait l'intention d'avoir la bombe atomique ou pas, etc. Est-ce qu'il voulait vraiment avoir la bombe atomique ? Moi, je crois personnellement qu'il souhaitait avoir la bombe atomique. Mais avoir la bombe atomique et s'en servir, ce sont deux choses tout à fait distinctes.
C'est évident.
Parce que si l'Iran avait eu la bombe atomique, je ne pense pas du tout qu'il s'en serait davantage servi que la Corée du Nord ne s'en sert. Ouais. Parce que la Corée du Nord, comme l'Iran, s'il avait eu la bombe atomique, savait très bien que l'utiliser une seule fois, c'était l'assurance d'être ensuite
anéanti,
vitrifié.
Mais donc, je pense qu'il
ne l'aurait pas utilisé. En revanche, dans la région, il y a une bombe atomique dont personne ne parle, et que personnellement je trouve extrêmement dangereuse, c'est la bombe atomique pakistanaise, que les Américains ont fournie, directement ou indirectement, au Pakistan. Or, le Pakistan, c'est un pays extrêmement instable, et où la majorité musulmane sunnite pourrait tout à fait tombé du côté de l'extrémisme le plus radical, et serait peut-être susceptible de s'en servir dans le cadre d'un conflit avec l'Inde ou une occasion quelconque.
Est-ce que l'Inde a également la bombe atomique ?
Oui, bien
aussi,
sûr.
Ils l'ont également.
Bien sûr, oui.
Mais, Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
C'est une simple remarque. La bienfaisance romaine pendant la guerre des Gaules a tué plus de Gaulois que les bombardements en Iran, bien courtoisement.
C'est vrai.
C'est indiscutable. Les mœurs étaient rudes à cette époque, et César n'était pas tellement un partisan des droits de l'homme, ni de ceux des femmes, d'ailleurs.
Sans doute le quart de la population.
Surtout que la guerre des Gaules a quand même été pas seulement une guerre de conquête, mais aussi une guerre d'assainissement des finances de Jules César. Il est bien connu qu'il y a non seulement plusieurs millions de Gaulois qui sont morts dans cette guerre coloniale, c'est une guerre coloniale, mais qu'il y a un nombre égal qui a été mis en esclavage et vendu en grande partie pour le trésor personnel de Jules César, qui, grâce à ça, a pu évidemment se mettre dans une position qui lui permettait ensuite de prendre la prise de la dictature aussi à Rome. Donc c'est vrai que, disons, l'impérialisme romain, une fois assumé, pouvait avoir un caractère qui pouvait paraître bénin, mais c'est sûr que pour toute une série de peuples soumis, on en parlait d'ailleurs au début, il n'y a pas seulement le cas des Gaulois, pensons aux chrétiens, la persécution des chrétiens quand même.
Ça c'est postérieur, c'est Néron ça.
300 ans a bien suivi, pensons au fait à la persécution des druides qui ont été littéralement éradiqués par les Romains. Donc je veux dire, ça a deux faces finalement, cet impérialisme romain.
Mais en fait, vous savez, Napoléon Ier, qui est quand même un homme qui était très, très, très lucide, a dit « l'histoire est un mensonge que personne ne conteste ». Et ça, je trouve que c'est une vérité absolue. Parce que vous avez... moi, quand j'étais enfant, on me citait en exemple Jules César.
Oui.
Si tu veux ressembler à Jules César, tu dois faire ci ou ça. On me citait en exemple Alexandre le Grand, quelques des grands hommes. Jules César a sa rue à Paris. Il a sa rue à côté du Boulevard de la Bastille.
Et le professeur Tournafond,
pas encore, mais ça pourrait peut-être venir.
J'espère.
Mais Jules César Jules César était infiniment plus cruel que n'était le général Franco ou le général Pinochet. Et ça, les gens ne le voient pas.
Assurément.
Il était d'une extrême cruauté. Mais à l'époque, la vie ne comptait pas. Mais curieusement, d'ailleurs, les woke ne s'intéressent pas à Jules César, alors qu'ils pourraient en faire leur tête de turc, franchement. Parce que Louis XVI, qu'on a eu l'audace de traiter de tyran pendant la Révolution, c'était la bonté même par rapport à Jules César. Et lui, enfin, c'est attristant. C'est pour ça que Napoléon a raison. Alors, d'autres questions encore.
Oui, alors, une remarque. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Ah. Je soutiens Donald Trump quand il tue des ayatollahs responsables de la mort de 58 militaires. Je soutiens Trump quand il va chercher un salopard dénommé Maduro au Venezuela. J'ai trouvé un président de substitution pour oublier Macron bien courtoisement un autre auditeur.
Alors je pense que
ça, c'est très intéressant ça.
Oui.
Cette idée de président de substitution parce que je crois que c'est quand même en grande partie l'un des problèmes aussi de la droite européenne qui a un personnel politique tellement horrible qu'il gouverne que on trouve que ce soit en Trump ou en Poutine quelque part un genre de modèle en disant voilà, lui, au moins, il fait pour son peuple ce que nous, on devrait aussi. Et donc, il y a un genre d'idéalisation des autres, toute une sympathie pour l'autre qui s'établit et qui oublie assez rapidement le fait que, à la fois les États-Unis et la Russie ou les autres grands pouvoirs ont des intérêts géopolitiques et stratégiques très différents de celui de l'Europe et qu'il faut toujours procéder avec modération avant de se projeter quelque part dans des autres et de supporter alors quelqu'un comme Trump ou comme Poutine juste parce qu'on est dégoûté par sa propre caste politique, avec raison d'ailleurs.
Hein. Oui, on est dégoûté par la mollesse et par...
Par la lâcheté et la fourberie et l'arrogance et l'incompétence. C'est-à-dire que le personnel politique des États démocratiques occidentaux représente le concentré de toutes les tares humaines, à mon avis. Et c'est pour ça que j'ai une vision extrêmement négative des régimes démocratiques tels qu'on les entend au sens de la démocratie parlementaire. Je pense qu'ils arrivent à la décadence de l'homme, ce qui n'est pas le cas de régimes plus énergiques où il y a des héros, alors des héros terribles, mais qui suscitent une forme d'admiration. Quand on a vu ce qui est arrivé à Maduro au Venezuela, on a eu l'impression de revivre un bon vieux western américain où il y avait enfin de l'action, il y avait enfin les bons et les méchants, il y avait enfin le shérif qui arrêtait le bandit et qui le jetait en prison. Ça fait du bien quelque part quand même, parce que Maduro, c'est un être odieux. Mais alors
mais c'est un précédent.
C'est vrai, c'est vrai.
Assez redoutable.
C'est juste. C'est juste.
Il y a des êtres odieux que les États-Unis ont laissé subsister parce qu'ils étaient conformes à leurs intérêts, et peut-être des êtres qui n'étaient pas si odieux que cela, qu'ils ont débarqué par des moyens aussi.
Oui, comme le Shah d'Iran, par exemple, qu'ils auraient pu soutenir, parce qu'on aurait évité tout ça.
Oui.
On a été en 1979. L'attitude des pays occidentaux et notamment des États-Unis a été absolument ignoble à l'endroit du Shah, qui était certainement un despote éclairé, mais qui avait tout fait pour développer l'économie. On ne faut pas oublier que ce qui a provoqué la fureur des religieux dès 1977, c'est lorsque le Shah d'Iran a décidé de permettre l'accession à toutes les fonctions publiques aux femmes. C'était ça le casus belli. Et c'est comme ça que les ayatollahs ont commencé à monter en puissance, parce que pour eux, la femme est un être subordonné qui ne doit jamais avoir de fonction politique. Et c'était donc un homme qui voulait développer son peuple économiquement, culturellement, à tout point de vue. Et on l'a traité. Alors, l'imbécilité suprême, c'est d'avoir reçu l'ayatollah Khomeini à Naufle-le-Château, ce qui nous a valu d'ailleurs aucun avantage d'aucune sorte, que d'être méprisé et à juste titre. Ça fait partie des grandes erreurs de Valéry Giscard d'Estaing. D'autres questions?
Alors, une dernière question qui vient d'arriver. D'après des études successives sur les pratiques religieuses en Iran, il semblerait que le pays soit divisé en de multiples religions, avec 45% de non-religieux, seulement 30% de chiites, 5% de sunnites et le reste d'azéris, soufis, mazdéens, chrétiens. Il semblerait surtout que dans les dernières années, la proportion de non-religieux soit en rapide progression et donc que la fin du régime théocratique aurait pu être proche. L'attaque peut, à contrario, souder les différentes communautés autour d'un pouvoir national et donner plus de pouvoir aux gardiens de la révolution.
Ça, c'est le problème, parce que ce genre d'attaque peut avoir un effet double et parfaitement contraire. On peut espérer, manifestement la stratégie de Trump, que ça affaiblit un régime dont tous les dirigeants sont liquidés physiquement les uns après les autres, ce qui n'est jamais très bon pour les successeurs, et qui peut donner des ailes aux contestataires. Ouais. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'inverse. C'est que ce genre d'attaque, ça peut aussi souder, malgré tout, le sentiment national qui existe dans ce pays. Un journaliste, je ne sais plus qui c'était Guillaume Tabar ou quelque autre, dont j'apprécie d'ailleurs les interventions, faisait observer, si j'ai bien entendu, il y a deux jours, qu'aux dernières élections, car il y a des élections démocratiques,
un président.
Ne vous en déplaise, cher professeur,
il y a un président
de la République,
mais qui est subordonné à l'ayatollah.
Au guide suprême
de la Révolution.
Bon, voilà. Au guide suprême, voilà. Lors des dernières élections présidentielles, il y avait deux candidats. Il y avait un conservateur et un ultra-conservateur. Bon. Eh bien, le conservateur a gagné parce qu'il aurait eu, je crois, 13 millions de suffrages. Mais l'ultra-conservateur en avait reçu 11 millions.
Ah oui, quand même. Oui.
Donc,
ça veut dire qu'on est quand même conservateur en Iran.
Ça
nous inspire, nous qui sommes conservateurs, n'est-ce pas, David ?
Je ne sais pas. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de minorités religieuses, il y a beaucoup de minorités ethniques aussi. Ce ne sont pas tous des Perses, ce ne sont pas tous des Farsis. Oui. Je me permets peut-être une anecdote que je trouve assez savoureuse quand même. Un jour, comme je n'avais pas dit que du bien de Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. J'avais dit que je combattais au Parlement européen, que je combattais l'islam, mais que je ne me croyais pas obligé de comparer les femmes de celui que les musulmans révéraient comme leur prophète à des prostituées.
Oui, oui. Bon,
ça m'avait valu des huées, comme d'habitude, mais la considération de certains diplomates iraniens. J'ai été invité par l'ambassadeur. Mmh. Bon. Et c'était à la fin du deuxième mandat de Bush Junior, où déjà il y avait des bruits de bottes et même des bruits d'hélices, puisqu'il y avait toute l'escadre américaine qui était au large des côtes iraniennes. Et je pensais, moi, que la guerre était imminente. Et je le dis à l'ambassadeur, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même de... on a l'impression que les États-Unis vont attaquer votre pays. Et l'ambassadeur me dit non, je crois que ça va s'arranger avec les Américains. Et j'insiste et je dis oui, mais le gouvernement israélien a dit que si les Américains ne s'en chargeaient pas,
ils le feraient eux,
ils vous attaqueraient. Ce qui se produit à l'heure actuelle. Et vous savez ce que l'ambassadeur m'a répondu ? Il m'a répondu très sérieusement, en me regardant droit dans les yeux. Il m'a dit « Non, je ne pense pas qu'ils nous attaqueront. Ils se souviennent que c'est nous. » Il dit « Je ne pense pas que les Juifs nous attaqueront. Ils se souviennent que c'est nous qui les avons délivrés de la captivité de Babylone. »
C'est intéressant.
J'ai cru à un moment qu'ils se payaient peut-être ma tête,
mais pas du tout.
Alors, ils ont vécu sur cette illusion, évidemment. Mais je crois que c'est assez révélateur des mentalités.
Mais là, en l'occurrence,
ce sont des pays qui ont des mémoires longues.
Oui, mais enfin, en l'occurrence, c'est bien les Israéliens qui ont attaqué.
En l'occurrence, cette assurance n'a pas suffi.
Là, actuellement, mais alors, il y a une question que j'aimerais poser à David Engels, à moi qu'il veuille réagir à ce qui vient d'être dit sur les... la mosaïque religieuse et ethnique que constitue l'Iran. Que vont faire la Russie et la Chine ? Parce que là, qu'on le veuille ou non, ce sont plusieurs alliés, le Venezuela, Cuba, maintenant l'Iran, qui tombent successivement sur l'échiquier géopolitique. Et je ne sais pas quelle va être la réaction donc, de ces puissances. Vous avez une idée, David, de qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je pense que les Russes et les Chinois doivent être embarrassés, quand même.
Oui, absolument. On voit évidemment à ça l'affaiblissement assez cruel de la Russie, qui non seulement ne réussit pas dans sa guerre de conquête en Ukraine, qui visiblement a pu ni aider le Venezuela, ni finalement la Syrie, ni maintenant l'Iran. Il y a toute une série d'alliés importants qui tombent. On ne peut que réfléchir ou se souvenir de cette théorie qu'il y a ces. Géopolitiquement, d'un point de vue en tout cas global, qu'il y a toujours ces deux forces hein, primordiales. Il y a cette force eurasienne qu'on a souvent appelée chez Mackinder le Heartland, hein, la terre, enfin, qui est le cœur, si on veut dire, de ce bloc continental. Et puis la politique du Rimland, c'est-à-dire des contours, qui est plutôt le pouvoir océanique. Et là, on
Oui,
voit
c'est ça.
évidemment qu'avec l'Iran, il y a justement cette volonté éternelle d'ailleurs. À la fois de la Russie et partiellement aussi de la Chine, c'est-à-dire d'arriver à un débouché sur l'océan Indien qui tombe à l'eau. Donc, d'un point de vue stratégique, si jamais, en tout cas, les États-Unis et Israël réussiraient véritablement à dominer, ou en tout cas, soit de dominer l'Iran, soit de l'éliminer en tant que véritable force politique de ces alliés eurasiatiques, que c'est un pas important dans le renforcement d'une certaine présence américaine dans ce territoire-là. Maintenant, peut-être juste une parenthèse par rapport à ce que vous disiez aussi sur la nature fort morcelée et le problème de l'identité religieuse aussi, du fait que l'Iran, finalement, reste un pays, enfin, qui n'est pas, où une grande partie de la population n'est pas dans un fondamentalisme religieux extrême, mais se dit plutôt peut-être même non religieux. Tout ça me rappelle à chaque fois, je ne peux pas que, enfin, je ne peux que m'en souvenir, la fin de Franco ou de Salazar, où ça donnait cette impression. Enfin, on a parlé souvent de ça d'ailleurs, le dictateur sanguinaire, etc., obscurantiste avec un pays qui est ultra-droite catholique, et puis il a suffi qu'il meure, et assez rapidement, quelques années, voire quelques mois plus tard, finalement, on a vu à la fois le Portugal et l'Espagne basculer d'une manière assez enthousiaste vers un libéralisme
Démocratique, oui.
démocratique, mais relativement anticréatien aussi, parce que
Ben
si vous
oui,
voyez
bien sûr, mais les deux
aujourd'hui,
vont de pair, hein,
la place qu'occupe encore le
non, mais de toute
christianisme
façon.
dans la vie quotidienne en Espagne. Et donc, quelque part, bon, je sais, ma religion, c'est évidemment aussi le catholicisme romain et pas l'islam, mais à chaque fois, quand je vois cette situation, je me dis, est-ce qu'on peut, si la même chose se répète maintenant, donc là, en Iran aussi, on aurait un basculement de nouveau vers un certain hédonisme un peu occidental, athée, où c'est finalement, soi-disant, les valeurs
Oui,
européennes,
c'est ça, oui.
occidentales, qui prime, etc. Est-ce qu'en en tant que conservateur européen, on peut s'en féliciter à 100%, ou est-ce qu'on ne
Ouais.
doit pas, comme c'est mon
S'inquiéter
cas,
aussi, s'inquiéter.
ressortir une petite pointe quelque
Oui,
part
oui.
en se disant, même si c'est l'islam, etc.,
Il
etc.,
y avait un
bah,
sens du sacré, oui,
est-ce que c'est une super bonne chose qu'une
Ouais.
fois de plus, on a un pays qui bascule du côté ultra-libéral, hédoniste à l'américain? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut nous préparer aussi à nous, pour revenir au sujet, c'est-à-dire si jamais il y avait une certaine droite qui pourrait de nouveau arriver au pouvoir en Europe? On l'a vu en Pologne d'ailleurs, toute la politique massive de déstructuration du gouvernement polonais précédent, ou maintenant de la Hongrie, pour justement essayer de déchristianiser et de tuer les traditions locales. Donc, une fois de plus, j'ai parfois, je me sens un peu tiraillé, oui, d'un côté, d'accord, et puis d'un autre côté, on se dit, bon, est-ce qu'il faut maintenant rentrer dans ce combat-là de libération d'un peuple pour qu'il accède aux valeurs occidentales dont on a vu ce que ça a fait en réalité à l'Europe?
Oui, je sais, oui, c'est vrai. Mais la Hongrie, c'est différent parce que, au contraire, Donald Trump soutient beaucoup Viktor Orban et les deux sont en relation, puisqu'on même l'avocat au Conseil de Patrice Pinozzi qui est un partisan farouche de la démocratie athée et matérialiste, et qui est un de nos adversaires, indiscutablement, qui est d'ailleurs un homme brillant, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, disait, attention, Trump est extrêmement dangereux, Mélanie est extrêmement dangereuse, mais le chef de la bande, le chef intellectuel, le cerveau de la bande, c'est Viktor Orban. C'est Viktor Orban, le cerveau de la bande. Alors, bon, j'aurais regretté que ce ne soit pas moi, le cerveau de la bande. Parce que
en sous-main.
Alors, je sais que le titre de guide suprême de la révolution n'existe plus, mais moi, je revendiquais celui de guide suprême de la contre-révolution.
Ça ne m'étonne pas de vous.
Mais j'aimerais qu'on me reconnaisse enfin comme tel. Bon,
je fais allégeance.
Parce que, non, mais il est évident que cette... cette tendance à faire disparaître les États qui sont fondés sur une transcendance est très très inquiétante, ça c'est indiscutable. Mais en même temps, Trump soutient Orban. Alors pour la Pologne, je ne sais pas quelle est la position de Donald Tusk par rapport à Trump. Il est hostile.
Il est hostile. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a plutôt le président Duda qui, on va dire, sur une certaine lignée avec Trump. Navrotsky, depuis les récentes élections. En revanche, c'est vrai qu'il y a ces relents un peu d'accusation de vassalisation qui rentrent toujours en jeu. Et Tusk, qui lui essaie de combattre cela avec von der Leyen, Macron et en refaisant un peu le... Il y a une vraie tension aujourd'hui en Pologne, il y a un vrai clivage, il y a deux civilisations qui s'opposent et qui paraissent irréconciliables, notamment justement sur cette question religieuse. Juste une anecdote, quelqu'un, à la dernière période de Noël, en Pologne me disait « j'ai voulu acheter une crèche ». Il a eu de grandes difficultés à en trouver une. Pensez-y, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était inimaginable de trouver une crèche, une trentaine de variétés d'architecture de crèches pour en acheter une pour la maison, une de 1 mètre de haut, une petite somme nature.
Oui, il y avait toutes les...
Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans ce pays, mais quand je dis nouveau, c'est en effet peut-être de nouvelles cicatrices et une nouvelle brisure.
Écoutez, en tout cas, on arrive, il ne reste plus que 30 secondes pour cette émission. Je voulais vraiment remercier nos collègues Bruno Gollnisch et David Gengels d'avoir participé à cette émission sur la position des droites européennes face à la politique impériale de Trump. C'est une question qui pourra être reprise dans quelques semaines ou quelques mois, hein, parce qu'elle est loin d'être démodée, je pense. Ça, je crois qu'on pourra faire des prolongations. Demain, chers auditeurs, nous aurons une émission avec le professeur Bozami sur le nouvel obscurantisme, mais en même temps avec un hommage au professeur De Vels. Et merci de votre attention, et peut-être demain soir à la même heure.
Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés dirigé par Olivier Tournafond, assisté de Bérénice Tournafond et de Marc de Staël, dirigé en direct sur Radio Courtoisie mardi 3 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie. 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.